café oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait une petite compagnie au Casanga. Je pense qu'on peut rapidement les deux, de l'esprit qui vont trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange de parole aux auditeurs. Depuis 2007, la RDC s'est inscrite dans une nouvelle dynamique de la promotion des métiers avec quelques programmes dans différentes filières de formation professionnelle, électronique, agro-pastorale, maçonnerie, coupe et couture et autres. Mais cette dynamique semble ne pas avoir un impact sur le cadre immédiat des idées congolais selon certaines analyses. Pourtant, la formation professionnelle demeure de façon déterminante une opportunité de développement d'une nation. Comment faire pour réussir cette volonté politique imprimée par l'État congolais? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Sylvain Matundu assure la mise en onde de cette émission réalisée par Julie César, Gilles Mungembo et à la coordination. Et Pierrot et la Mézou vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mézou.
La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir les savoirs et les savoir-faire, habiletés et compétences nécessaires à l'exercice d'un métier et d'une activité professionnelle. Elle favorise l'insertion ou la réinsertion professionnelle de l'individu dans la société. L'État congolais a initié la promotion de la formation professionnelle depuis 2007 dans l'idée de voir cela apporter, avoir un impact sur le développement des communautés. Alors, plusieurs analyses estiment que cette volonté n'a pas été suivie dans le fait sur terrain en ce qui concerne la promotion de la formation professionnelle. Comment arriver à organiser cela d'une manière plus efficace sur terrain? C'est la question au centre de notre échange dans cette émission. Vous pouvez aussi intervenir en nous appelant au 081-890-6315. Nous avons associé à cet échange Monsieur Urbain Marie Mompi. Vous êtes expert en question de promotion de la formation professionnelle chevronné du domaine de l'enseignement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Irvine Marie Montu, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Piero.
Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Et quelle analyse vous pouvez faire aujourd'hui de la promotion de la formation professionnelle dans notre société?
Oui, merci de la question et merci de m'avoir de m'associer à votre émission. L'enseignement technique ou bien le domaine de métier, c'est un domaine très important, très très important pour le développement de tout pays. Et lorsque nous voyons d'abord, nous faisons une rétrospective dans l'histoire, vous verrez que les villes ont été créés par des artisans au Moyen-Âge. Vous avez étudié ça, hein, lorsque on vous a parlé des sorts des villes.
Mm-hmm.
Ce sont des cordonniers, ce sont des maçons, ce sont des menuisiers, des charpentiers, hein, qui ont créé les villes, les premières villes et les premières communes. Et aujourd'hui, quand vous allez n'importe qui, n'importe où, vous allez n'importe où, vous verrez que c'est les métiers, ce sont les métiers qui rendent la civilisation, le développement visible. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, vous allez en Asie, vous verrez que ce sont des bâtiments, hein, qui parlent d'abord. Et ce sont c'est le résultat, hein, du travail manuel, du travail de l'artisan.
Oui.
Donc, c'est un secteur très important. et je félicite notre gouvernement, bien que tard, d'avoir pris l'initiative de revaloriser l'enseignement technique. Et c'est très important. Parce que dans l'ensemble, si vous voyez depuis l'accession du pays à l'indépendance, eh bien, vous voyez que on a attaché plus d'importance aux études qui mènent à la bureaucratie. Et c'est bien que aujourd'hui, les jeunes trouvent qu'il faut trouver un travail dans le bureau. Mmh. On veut travailler seulement dans le bureau. Et quand vous regardez l'échelle de salaire, vous voyez que le gouvernement, les gouvernements successifs, post-indépendants, post-colonial, si vous voulez bien, donnent l'impression à la population que on ne peut vivre, on ne peut être bien dans la société que si on doit faire la politique. Pourquoi? Parce que les stimulus, les salaires, comment elles sont, la politique salariale est conçue de quelle façon? On donne plus d'importance à ceux qui travaillent dans le bureau, on donne plus d'importance à ceux qui travaillent dans la politique et surtout dans la politique. Et dans la vie, les gens, les jeunes, voient ce que le pays est, comment le pays, la société fonctionne. Les jeunes sont toujours à la recherche des modèles, des exemples qui peuvent les attirer, qui peuvent faire d'eux des personnalités, soit magistrats, soit hommes de métier, et ainsi de suite. Mais on donne plus d'importance.
Voilà, là on a perdu notre invité à un problème de communication, mais on va tout à l'heure le retrouver pour évoquer ces difficultés que nous avons connues dans l'organisation de la formation professionnelle des écoles techniques aujourd'hui. Mais faire aussi le point dans votre milieu, c'est que ces écoles sont devenues, et ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à renforcer cette volonté du pouvoir public à investir dans la formation professionnelle et technique. Arsène, vous êtes à Kikwit, dans la province de Bandundu, on va vous accorder la parole. 081-890-5315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Voilà, nous faisons les points aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles techniques aujourd'hui à travers le pays. Il y en a nombreuses qui n'ont plus de salles de pratique. On se rappelle encore les instituts techniques agricoles qui n'ont plus d'espace pour l'expérimentation, pour faire les pratiques pour les champs. Voilà autant de difficultés que ces écoles techniques ont connues, ainsi que la faiblesse dans l'organisation de la formation professionnelle. Mais dès lors que l'État imprime cette volonté de pouvoir investir dans ce domaine, alors qu'est-ce qui doit être fait pour que cela réussisse d'une manière plus efficace sur terrain?
Merci beaucoup, M. Pierrot. Moi, d'abord, je vais commencer par dire que je suis ressortissant d'une école technique. Et quand j'apprends que l'État prend de telles initiatives, je ne peux que m'en réjouir. Mais alors, le problème se pose à quel niveau? Je suivais l'invité qui a donné d'une façon théorique ce qui a poussé nos autorités à prendre ces initiatives. Mais le problème est tellement ample qu'il faut nécessairement une éducation pédagogique populaire pour que le jeune gens qui grandissent aujourd'hui puissent comprendre que ce n'est pas seulement le bureau. Je crois que moi je parle pour la radio Capi, on m'écoute. Je ne suis pas ressortissant d'une école de sciences sociales, je suis ressortissant d'une école technique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui ont fait des sciences sociales ou devenir professeur d'université que vous pouvez bien vous exprimer ou vous pouvez bien réfléchir. Le problème, c'est très sérieux. Aujourd'hui, ce que je constate, oui, l'initiative est là, mais c'est une initiative théorique. Pourquoi je dis théorique? Parce que la simple raison, c'est quoi? On ne peut pas apprendre à un enfant quelque chose de pratique Par exemple, vous dites une brique. Théoriquement, vous expliquez ce que c'est une brique. Mais est-ce que l'enfant a vu cette brique-là? Est-ce que l'enfant a touché cette brique? Pour que demain, il puisse comprendre que la brique est comme ça, comment est-ce qu'on doit la toucher, comment est-ce qu'on va faire? C'est tout un schéma à suivre. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, on puisse crier sur l'enseignement professionnel aussi longtemps que c'est en quelque sorte comme une initiative de complaisance. Je crois que l'initiative doit être prise au sérieux. Quand c'est prise au sérieux, je crois qu'il y aura quelque chose. Pour apprendre aux jeunes gens d'aujourd'hui le métier, la première chose, c'est le matériel didactique.
Mm-hmm.
Est-ce que nous avons le matériel didactique? Aujourd'hui, quand je suis le résultat des examens d'État de 60 quand vous voyez combien de membres de techniciens qui ont eu leur diplôme, par exemple en mécanique générale, vous verrez tout un tas d'écoles. Est-ce que ces écoles ont les infrastructures, ont les équipements qu'il faut pour former un mécanicien généraliste, par exemple, ou pour former un électronicien? Il n'y en a pas. Absolument, vous verrez seulement des pancartes. Le gouvernement doit être sérieux. Aujourd'hui, il y a un ministère, le ministère de l'enseignement professionnel et technique. Qu'est-ce que ce ministère a comme budget? Combien de machines ce ministère va importer pour les écoles? Il y a combien des écoles? Il y a combien de... Donc c'est tout un travail à faire. Nous devons prendre ça au sérieux parce que le pays ne va pas se bâtir dans le bureau des ministres. Non, le pays se bâtit avec des maçons, le pays se bâtit avec des ouvriers précis. Tous ces gens-là, ils sont importants. Comme je le disais une fois, on ne peut pas devenir un bon médecin s'il n'y a pas un bon infirmier. Aujourd'hui, on ne peut pas être un bon ingénieur qui a terminé, par exemple, à l'université de Kinshasa aussi longtemps que sur le terrain, il n'y a pas de technicien qui peut l'accompagner. Il va faire des plans, il va faire des études. Mais comment il va l'appliquer? Est-ce qu'il a appris comment manipuler une brique? Voilà un peu ce que j'avais à dire. Mais s'il y a d'autres questions, parce que je suis du domaine, je suis prêt à vous répondre.
Merci beaucoup, Arsène. Si on peut vous retenir pour peut-être une minute, vous avez beaucoup insisté sur la volonté politique qui doit être accompagnée de la volonté de matérialiser cela, c'est-à-dire qu'il faut que les écoles soient dotées des infrastructures, de matériel didactique qui puisse permettre aux enfants qui vont apprendre effectivement d'élier la théorie à la pratique. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans le Bandundu à Sikwit, par exemple, et vous avez dit dans une école technique, mais qu'il y a eu quand même à un certain moment des efforts qui ont été fournis pour que les écoles techniques qui existeraient encore dans le Bandundu à Kikwit puissent avoir ce matériel et puissent vraiment sortir des techniciens qualifiés dans n'importe quel domaine aujourd'hui, là où vous êtes sur place, Arsène.
Je suis le sortissant d'une école technique. J'ai enseigné dans cette école même. Je sais ce que je dis. Aujourd'hui, je dis que cette éducation, c'est une éducation de complaisance. L'enseignement, quand moi j'ai enseigné, je sais que nous avions l'appui de la coopération technique belge.
Mm-hmm.
Nous avions des machines qui arrivaient. Mais, depuis que la coopération technique a fermé toutes ses portes, on a des problèmes. On a seulement des écoles théoriques. Je dis ça, j'insiste beaucoup. Ce sont des écoles théoriques, des diplômes théoriques. Aujourd'hui, si je dois faire passer des élèves d'aujourd'hui un test, personne ne va entrer dans mon atelier. Ça, je vous le dis. Parce que tout le monde va échouer, parce qu'il n'y a rien. Ce sont des diplômes inutiles. Maintenant, je lance un message au ministre qui est chargé à l'enseignement professionnel et technique de prendre ses responsabilités en main. Il faut des millions. Nous devons organiser nos écoles. Moi, ici, à Kikwit, comme vous me l'avez demandé, je suis le président de l'Institut technique professionnel de Kikwit. Si je vais dans cette école, j'ai des larmes aux yeux. Parce que les machines qui existent là, ce sont des machines des années 70. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Nous avions à notre époque le même programme que l'Institut technique de Liège. Celui qui termina l'Institut technique de Liège et celui qui termina l'Institut technique de Kikwit, on ne pouvait pas l'envier, on ne pouvait pas envier M. de la Belgique. Parce que nos collègues aussi, qui allaient en Belgique, enseignaient en Belgique. Et aujourd'hui, à quelle étape nous sommes, je suis en train de plaider. Ce sont les techniciens qui
participent. Merci beaucoup, Arsène. Vous estimez, vous souhaitez que le ministre en charge de l'enseignement professionnel et technique, il faut aussi que le moyen puisse suivre. Il faudrait un budget conséquent pour permettre à ce qu'on ait un programme d'acquisition de matériel didactique, de machines qui puisse permettre à ce qu'il y ait ceux qui font cet enseignement, ceux qui suivent ces différentes filières puissent être bien formés plutôt que d'avoir un diplôme théorique quand le diplôme est pratique et technique. Merci beaucoup. La ligne avec notre invité s'est améliorée, on va revenir à lui. Il est temps d'écouter Claude qui est ici à Kinshasa dans la capitale. Bonjour Claude.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à notre invité.
Alors, vous avez suivi votre problématique, c'est la volonté est là de pouvoir valoriser aujourd'hui la formation technique professionnelle, mais comment y arriver, quels sont les mécanismes qui doivent accompagner cette volonté pour vraiment voir ces écoles techniques reprendre pouvoir et surtout que cela puisse avoir de l'impact, n'est-ce pas, sur le développement de nos communautés et sur les besoins qui se posent dans notre société aujourd'hui, Claude.
Oui, d'abord, je fais mien tout le propos d'Arsen de Titi.
Oui.
D'une part, je félicite aussi l'invité pour tout ce qu'il a fait. Je suis aussi ressortissant d'une école technique. Vous vous rappelez, il y a à peu près...
Claude, pourriez-vous diminuer ou soit arrêter carrément votre poste? C'est peut-être s'il y a une radio à côté de vous, on peut l'arrêter. Comme ça, vous allez suivre l'émission à travers les téléphones portables. Mais si jamais il y a des personnes qui suivent ce que vous dites, vous pouvez peut-être vous éloigner pour leur permettre de suivre, afin que la communication s'améliore sur les antennes. On vous écoute, Claude.
Parfait. Comment vous me recevez?
Maintenant, c'est bien. On peut avancer.
Ok. Je disais que je suis ressortissant d'une école technique. Et je suis très content d'entendre que les gouvernements puissent s'atteler sur un projet comme celui-là. Il y a presque 4 ou 5 mois, je vous ai parlé du même problème.
Oui.
Alors, j'avais demandé à ce qu'on puisse réhabiliter certaines écoles techniques, parce que vous risquez de tomber malade quand vous voyez certaines écoles techniques. Moi, j'ai étudié à l'ICACI, à l'école technique, centre de formation professionnelle de la FNCC. C'était la meilleure école.
Oui.
Et quand j'arrive aujourd'hui, c'était vers les années 70, je suis de la deuxième promotion de cette école-là, de l'État dont faisait l'école technique. C'est une école qui a commencé depuis les années 40, mais on formait tout le monde là-bas. Les mécaniciens, les ajusteurs, les soudeurs, tout le monde est formé là-bas. Donc, quand vous arrivez dans cette école-là aujourd'hui, vous avez les larmes aux yeux. Essayez de passer par là et vous allez regretter. Vous connaissez la situation dans laquelle se trouve la SNCC aujourd'hui. L'école n'est plus subventionnée. Mais l'homme blanc avait très bien compris dans les temps. Vous avez vu au Katanga, il y a plein d'écoles techniques là-bas. Ce n'est même pas suffisant, mais il y en a quand même assez. La GECAMI, avec son école technique, a Mouchi et une école professionnelle à l'ICACI, parvenait à former tous ces techniciens. À l'ICACI, on formait tous les techniciens par la SNCC. Même l'entretien voie, tout le monde était formé là-bas. Mais aujourd'hui, on a tout négligé. Qui va nous aider à remonter ces écoles techniques? Dans les temps, dans toutes les écoles techniques, parce que je peux vous les énumérer, j'en connais en tête. Je sais que c'était la commission technique belge ou les catholiques qui s'en occupaient. Et depuis qu'il y a eu divorce entre l'enseignement catholique et le gouvernement congolais, toutes ces écoles techniques sont gardées. Reconstruisez-le s'il y a moyen, confiez ces écoles aux catholiques et à la commission belge, comme on l'a dit. Avec un contrôle sérieux, je crois que nous allons aller vers là.
Mmh. Voilà, merci beaucoup. Claude, vous estimez aujourd'hui s'il serait mieux que l'État congolais renoue des contacts avec l'Église catholique, pourquoi pas aussi la coopération technique belge ou d'autres partenaires qui peuvent investir dans ces écoles, on peut revenir à cette formation d'antan que tout le monde regrette aujourd'hui, et ces écoles peuvent avoir de la valeur, former des techniciens, des personnes capables aujourd'hui de pouvoir aider à travailler, à contribuer au développement du pays. Merci beaucoup, Claude. Clovis, vous êtes en Boujmaï, dans la province du Kassai oriental. Bonjour, Clovis.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les amis de la radio Kassai.
On vous suit, Clovis.
Merci. Par rapport à la thématique du jour, c'est vraiment une très bonne thématique. La volonté de l'État congolais a été exprimée, mais jusque-là, tu restes théorique, mais pour ne pas être vraiment objectif ou avoir vraiment la volonté ou la vision d'aller loin. Avec ces écoles techniques, ces écoles professionnelles, vous trouvez quand même qu'il y a tout d'abord l'indépendance de celui qui est déjà formé. Pourquoi ? Puisque il peut, à travers son initiative privée, monter un atelier. Et dans cet atelier, tu peux engager déjà la jeunesse congolaise. Mais le problème, c'est que vous trouvez que les anciennes écoles professionnelles qui étaient l'œuvre de la colonie belge sont tombées caduques. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'entretien. Les labos qui étaient là sont déjà vraiment des matériels dévastés. Vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment de l'entretien. En même temps, on n'y en a pas. Ça n'existe pas du tout. Moi, je crois que l'État congolais doit investir vraiment dans ces écoles professionnelles. Pourquoi ? Puisque ça donne tout d'abord l'indépendance aux ressortissants de ces écoles, et en même temps, j'aimerais que l'État congolais puisse aussi investir dans ces domaines en créant bien sûr certains ateliers du type moderne qui sont dotés vraiment des matériels qui sont bien équipés, et ça doit maintenant engager, ça doit aussi lutter contre le chômage. Si aujourd'hui, admettons qu'il y a des grands ateliers, par exemple, au niveau du pays, 10, 20 qui engagent par exemple un personnel de plus ou moins 200, vous trouverez qu'il y aura déjà, on va lutter contre le chômage pour autant dire que non, au lieu seulement que les gens, aujourd'hui, vous pensez, tout le monde pense peut-être que non, la bonne vie, c'est seulement dans la politique, être dans la classe politique, être tel et tel autre. Mais on est en train d'oublier certains secteurs qui peuvent amener vraiment l'État congolais à aller vers le développement qu'il est en train de chercher. Ainsi qu'il est temps, comme on a déjà exprimé cette bonne volonté, de chercher maintenant à investir. Pourquoi ? Parce que ce secteur qui demande beaucoup de gros moyens. Et quand il y a de la bonne volonté déjà exprimée et qu'on va déjà mettre en œuvre, qu'on va déjà matérialiser, vous verrez que non, les jeunes gens n'en allons pas.
On va arriver vraiment à réaliser cela. C'est important, c'est que vous avez dit. Est-ce que vous avez dit c'est important, Clovis, qu'il faudrait, à côté de la volonté, il faut mettre des moyens en budget conséquent, par exemple, pour y arriver. 081-890-7315. Nous allons accorder la parole à notre invité tout à l'heure.
Radio Capi fait son 13e anniversaire avec les étudiants de l'IDIPAMUSI à Kinshasa. Au menu, une émission spéciale sur le bon usage des médias sociaux, sur les débouchés après des études en informatique et bien d'autres sujets encore. Au Capi Service, un rendez-vous exceptionnel à ne pas rater ce vendredi 13 mars 2015 de 9h à 11h lors de Kinshasa. Au Capi Service, à votre service.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Beaucoup de messages ont été déposés sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Peter Kalakalonji dit ceci, pour que cette volonté politique soit imprimée, l'État doit tenir compte de la main d'œuvre nationale lors des exécutions des ouvrages publics pour promouvoir les jeunes apprentis dans le cadre de la gouvernance participative ou citoyenne. Chukmugi, Rigwa de Lubumbashi, pour promouvoir les métiers, le gouvernement doit exiger aux différentes entreprises de former la main-d'œuvre locale, surtout dans les domaines miniers où on a plus besoin de la main-d'œuvre qualifiée. En plus, il faut aussi doter l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, de tous les matériels nécessaires pour permettre aux apprenants de mieux faire les formations désirées, parce qu'il arrive des fois que cette institution publique de formation professionnelle manque des outils pour organiser les séances pratiques. Et enfin, pour encourager la formation professionnelle, les grands travaux publics doivent être laissés aux Congolais, nous en sommes capables. Nous, ingénieurs et techniciens, préférons aller travailler en dehors du pays suite à la négligence et manque de considération de la part du gouvernement. Jean-Robert Kazadi de Mouine-Ditou, pour lui, il faut que l'État congolais puisse d'abord prendre en charge toute formation dans ces domaines, et aussi, il faut que les études secondaires et universitaires soient gratuites. Là, on serait capable d'orienter les jeunes gens dans des facultés professionnelles. Au contraire, ça sera difficile d'orienter un élève supporté par ses parents dans une option où sa famille n'est pas en mesure de supporter les coûts, car l'option technique est selon le souhait de l'État congolais. Nous revenons à vous, Urbain Marie Mumpi, vous avez suivi nos auditeurs. Mais quand on a suivi tout à l'heure notre ami Claude de Kinshasa, la plupart de ces écoles qui ont fonctionné dans les temps, parce que tout le monde est revenu dans le passé, il y avait aussi un problème du travail. C'est qu'il y avait des sidérurgistes Kinshasa-Kinji, il y avait des usines de montage des véhicules ici à Kinshasa, même en province. Il y avait des cimenteries, il y avait des fonderies, des savonneries, il y avait la SNCC, il y avait la GECAMI. Cela veut dire que ceux qui étaient formés dans les écoles techniques avaient la possibilité de trouver de l'emploi et d'être engagés. Mais aujourd'hui, comment on peut encourager, comme l'a souhaité notre ami des Cupides, encourager aujourd'hui la jeunesse à aller dans les écoles techniques? Les gens savent que, bon, après l'école technique, où est-ce qu'il va aller travailler dès lors qu'on a aujourd'hui, on n'a pas assez d'entreprises, de sociétés qui peuvent utiliser ces techniciens, hein, monsieur Urbain Marie Mopi. Marie Mopi, vous êtes avec nous? Voilà, là on a des petits soucis des lignes avec Urbain Marie Mopi. Vous êtes avec nous, monsieur? Vous êtes avec nous? Sûrement, on a des problèmes de ligne avec notre invité, mais en attendant, nous avons Dieudonné qui nous appelle des Manono dans la province de Katanga. Dieudonné, vous êtes avec nous, bonjour.
C'est bien, merci, ce n'est pas du pico.
Oui, c'est Dieudonné à Manono.
Dieu merci, Dieu merci.
Dieu merci, vous êtes à Manono dans le Katanga. On vous écoute, Dieu merci.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute, Dieu merci.
Oui, ce que nous voulons passer,
c'est pour ça. Dieu merci, essayez de vous déplacer un tout petit peu, parce que là, on a des petits soucis des lignes avec vous. La connexion entre Kinshasa et Manon nous pose problème. Tout en vous déplaçant, vous pouvez maintenant continuer à intervenir, Dieu merci.
Oui, je me suis déplacé.
C'est bon,
allô?
Oui, allez-y, continuez, Dieu merci, on vous écoute.
Oui, premièrement, pour le bon...
Non, voilà. C'est difficile, on vous entend à peine, Dieu merci. En attendant, si l'unité peut s'améliorer, Simon nous appelle de Matadi, dans la province de Bakongo. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour, c'est Simon sur le nouvel Société Civile.
Oui, on vous écoute. Nous parlons de la promotion aujourd'hui de la formation technique professionnelle. Comment arriver à matérialiser la volonté de l'État congolais d'investir dans ces domaines? Comment alors concrètement on peut y arriver aujourd'hui sur le terrain pour voir ces écoles, ces centres de formation renaître et être utiles aujourd'hui, n'est-ce pas, à la société congolaise?
Bon, merci beaucoup. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais tel que le gouvernement a pensé. Mettre encore un regard un peu sévère sur la formation technique au vu de l'évolution du monde, aussi de la mondialisation telle que la technique est en train d'évoluer à travers le monde. Parce que, sachez, vous devez savoir que les écoles techniques ne constituent que moins de 40% de toutes les années de la République. Donc, si on pouvait arriver à inverser l'équation, ça serait une bonne chose. Mais ce que nous devons savoir dans tout ceci, multiplier les écoles, c'est une bonne chose. Mais la réalité, nous devons vraiment savoir que l'absence de la qualité et de la valeur ne sont pas dues au manque d'écoles. Nous voulons bien qu'on crée des écoles techniques, mais observons déjà les écoles qui sont sur place. Est-ce qu'elles sont réellement équipées? Est-ce qu'elles répondent aux conditions de la formation technique? Si les questions ici posées n'ont pas encore trouvé solution dans ces écoles-là aujourd'hui, mais pourquoi encore en créer d'autres? Nous devons aussi mettre un problème, un accent. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de faire la pédagogie. Mais devenir enseignant, ce n'est pas chiffré. Pour devenir un enseignant, tu dois avoir fait les IST, Institut supérieur pédagogique. Est-ce que dans nos instituts supérieurs pédagogiques, les IST, les ISPP, on y a déjà introduit toutes les filières techniques? Parce que lorsque vous n'êtes pas formé pédagogiquement pour enseigner, vous allez manquer la méthodologie et l'enseignation qui va se suivre, vous allez assassiner. Vous allez assassiner dans les cas de la science. Aussi, moi je crois qu'il faut d'abord qu'on commence à encourager, vu la pauvreté qui caractérise notre pays aussi, les parents n'ont pas assez d'argent, encourager l'artisanat. Parce qu'il y avait des formations artisanales qui sortaient des gens qui pouvaient franchement aujourd'hui valoir encore mieux que certains diplômés que nous formons.
Donc, en ce fait, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire pour atteindre vraiment la technique telle que nous voulons la penser aujourd'hui. Donc, il faut commencer par les bas et monter. Commencer d'abord à redynamiser ces établissements scolaires qui souffrent encore. Vous allez voir dans un village où il n'y a pas d'électricité, on organise une école où il y a l'option électricité. Vous allez voir, vous allez dans une école, dans un village, on organise de la mécanique. Et les qui sont des enseignants, là, parfois, c'est non seulement des décis, mais il y a encore des gens qui sont très partisans. Je crois qu'il y a encore mieux à faire pour que nous bénéficions de ce qui existe et puis on peut avancer. Voilà ce que j'avais comme...
Merci. Merci beaucoup, Simon. Vous souhaitez qu'il faille d'abord faire un état des lieux des écoles techniques à travers le pays. Le travail a été fait il y a quelques années. On en avait parlé dans cette émission, parole aux auditeurs, sur la cartographie qui a été publiée au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans le temps, sur les écoles techniques à travers le pays, les pays, leur état des lieux. Et vous estimez qu'il faudrait aujourd'hui, d'abord investir dans ces écoles qui existent et qui connaissent beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, des fonctionnements aujourd'hui. Et après, on peut créer d'autres écoles et centres de formation. Et puis, d'un côté, il y a aussi la problématique de la formation au niveau des ISPT. Vous estimez que là aussi, il faudrait qu'il y ait autant des filières pour permettre à ceux qui terminent au niveau des ISP et ISPT soient à mesure aujourd'hui d'aller enseigner dans ces écoles secondaires à travers les pays, qu'on investisse les moyens pour la réhabilitation des écoles existantes et comme ça on peut penser à créer d'autres écoles. Merci beaucoup Simon de nous avoir appelé de Matadi au Bas-Congo. Nous avons le message d'Edeo Gracias Mtitam qui dit ceci. Pour lui, il estime que faire un débat aujourd'hui autour de cette question, c'est du gaspillage. Pourquoi? Parce que la période est électorale. Vous ne voyez pas que le gouvernement actuel, ceux qui sont au pouvoir pour le moment, ne pourront pas définir des priorités par rapport à la jeunesse, à la formation professionnelle. Autant mieux aborder cette question après 2016 pour donner la matière à un autre régime. C'est le point de vue de Léo Gracias Ntitam qui a conseillé à parole aux auditeurs de garder cette question pour l'évoquer après 2016. Bénédiction Migo de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Je trouve vraiment inconcevable que nos gouvernements actuels n'étalent seulement que les acteurs des bonnes intentions sans pour autant les faire accompagner par des actions concrètes. Je fais un constat malheureux de l'Institut technique en fondue Mendeleo qui est même dans une difficulté au nombre de fonctionnements suite à des coupures intempestives du courant électrique. Et les finalistes de cette école, ceux qui veulent continuer leurs études universitaires, sont contraints d'aller dans les pays voisins faute de trouver gain chez eux. Mwami Ruhamanga de Bukavu, ma préoccupation est de savoir quel est le mécanisme et moyen que l'État a disposé pour la mise en exécution de cette nouvelle dynamique. En plus, à quoi l'État s'est basé en s'inscrivant dans cette dynamique quand il n'a même pas, quand il n'y a pas la bonne volonté et il y a un budget conséquent pour arriver vraiment à réussir ces projets. Thomas Masikini Awekwe qui nous écrit de Gemena dans la province de l'Équateur dit ceci, former une personne sans lui donner les matériaux nécessaires pour évoluer dans son métier ne sert à rien. Le gouvernement devrait penser à outiller ces jeunes qui sont des centres de formation pour leur permettre de créer de l'emploi dans leur domaine respectif. Alors, nous revenons à vous, Urbain, Marie Montpuy, vous êtes avec nous maintenant. Je crois qu'on a eu des petits soucis des lignes téléphoniques tout à l'heure. Ce qui ne nous a pas permis de mieux communiquer. Mais je disais, en écoutant les uns et les autres, tout le monde dit qu'il faudrait aujourd'hui arriver à mettre des moyens, un budget conséquent. Il ne suffit pas d'avoir la volonté, mais il faut des moyens aussi qu'il faut mettre dans ces domaines pour arriver vraiment à avoir des écoles techniques et professionnelles outillées, capables de répondre aux besoins actuellement. Mais moi aussi, j'avais ce souci parce que beaucoup d'écoles qui ont fonctionné dans le temps, les gens avaient le courage de pouvoir s'inscrire dans ces écoles parce qu'il y avait de l'emploi. On pouvait travailler à la JICAMINE, on pouvait travailler à la SNCC, il y avait des sidérurgies. Il y avait des usines de montage des véhicules, il y avait des fonderies, des savonneries à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, on a ces problèmes d'accès à l'emploi, ce qui ne peut pas faciliter aussi la tâche de la sensibilisation de la jeunesse aujourd'hui à aller suivre ces formations techniques et professionnelles, Monsieur Urbain Marie Mompi.
Oui, vous savez que tout doit être planifié. Tout doit être planifié. Aujourd'hui, j'ai suivi des intervenants tout à l'heure et qui se plaignaient hein, de l'absence d'équipement dans les écoles. Et maintenant, là, vous venez d'ajouter hein, le manque d'entreprise, le manque de société. Hein, il n'y a pas de société. On forme les gens pourquoi? Il est vrai. Même si nous manquons de sociétés pour le moment, certainement avec le temps, on en aura. Mais nous sommes maintenant à l'étape de formation. Et on forme des gens, des techniciens, dans les entreprises, c'est vrai, dans les ateliers, dans des écoles équipées. Mais on ouvre des écoles partout, même dans les villages. Alors je pose la question si vraiment on veut former des travailleurs qualifiés, des ouvriers qualifiés, ou on veut tout simplement faire la propagande, voilà la publicité, voilà nous, on s'occupe aussi de la jeunesse, voilà nous avons des écoles techniques par ici, par là, nous en avons autant, hein, ainsi de suite. Je pense que on devrait d'abord programmer. Mmh. On doit avoir une politique de création des écoles techniques. Ou bien, on fait des écoles pour deux, trois écoles dans une province ou bien quelques écoles qu'on doit équiper, on est à même de les équiper, plutôt que de façonner, hein, de fabriquer des écoles, d'installer des écoles, ouvrir des écoles partout qu'on ne peut pas équiper. Donc moi j'estime que l'enseignement qui est donné aujourd'hui, ce n'est pas pour préparer vraiment les ouvriers qualifiés, les techniciens, mais tout simplement pour raison politique ou politicienne. C'est tout. C'est tout. Sinon, pour moi je suggère que par territoire par exemple, qu'on ait deux, trois écoles techniques, qu'on peut, que le gouvernement peut équiper convenablement, plutôt que hein, de proliférer, hein, multiplier les écoles techniques partout, même dans les villages. Et il y a deux doubles problèmes qui se posent. Mm-hmm. Il y a d'abord, un, les équipements. L'État n'est pas capable hein, d'équiper toutes ces écoles-là, on le sait. Deuxièmement, le personnel et ressources, donc le personnel, hein, qui doit donner la formation. Allez voir, il n'y a que des sous-qualifiés dans les villages. Il y a ce problème-là. Il n'y a pas un personnel qualifié. Avant de créer une école technique, il faut réunir, d'abord, il faut que l'on réunisse dans ces conditions-là le matériel et le personnel technique. Ce qui n'est pas le cas.
Mais il y a aussi le vrai problème aujourd'hui, c'est les besoins aussi. Hein. Comme vous l'avez dit, on a une responsabilité politique, on voudrait bien satisfaire son village, son territoire, on y crée une école professionnelle, mécanique, tout ça, mais c'est un problème aussi réel, c'est l'étude du milieu pour savoir l'école répond effectivement à quels besoins dans la communauté. Et comme ça, la qualité de la formation peut répondre aux problèmes réels qui se posent dans une contrée, dans un coin donné. Plutôt que créer l'école, comme vous l'avez dit, sur les plans peut-être politiques, pour un marketing politique, et pourtant cette école forme des gens qui, enfin, ne vont pas résoudre le problème au niveau de leur communauté.
Non. Donc, on, en principe, on doit partir des aspirations. Vous savez, l'enseignement ici a été tenu depuis longtemps, depuis sa création, début. C'est l'Église qui faisait ça. Il le faisait d'après les besoins des populations locales. Parce que dans le domaine de l'enseignement technique, on n'a pas seulement à former des ouvriers, mais aussi des hommes de métier qui peuvent travailler pour leur compte personnel. Et ces gens-là ne peuvent travailler comme ça que dans un milieu où il y a un marché. Mm-hmm. Où il se dit, il y a besoin. Hein, la population a besoin de lits, la population a besoin de mobilier, la population a besoin de constructeurs, donc de maçons, et ainsi de suite. Mais dans un même rayon, créer hein, 3, 4, 5, 6 écoles techniques, de l'inspection. Mais ça, c'est pour quel fin? Voilà.
Voilà, c'est pour ça que
je suis seulement comment dire, planification. On doit planifier notre enseignement.
Voilà. Mais vous avez travaillé dans ce domaine de l'enseignement plusieurs années. On sait aujourd'hui que l'Institut national de préparation professionnelle INPP, qui a une institution publique qui reçoit un partenariat avec, comme par exemple, le gouvernement japonais, on voit comment ça travaille. Mais est-ce que nous avons un cadre juridique aujourd'hui qui permet aussi la libéralisation de ce secteur pour que des privés qui ont des capitaux qui peuvent aussi investir dans ce secteur puissent y faire aujourd'hui? Est-ce que ce marché, on peut dire entre guillemets, le marché ouvert aujourd'hui aux privés qui peuvent investir dans la formation professionnelle et technique aujourd'hui?
Oui, oui, parce que l'enseignement a été libéralisé dans tous ces aspects.
Mm-hmm.
Enseignement technique, enseignement général, enseignement, je ne sais pas, tout ces, quoi, l'enseignement est libre.
Okay.
N'importe qui peut entreprendre.
Mm-hmm.
C'est ça? Mm-hmm. N'importe qui peut entreprendre.
Okay.
Mais avant d'aller chercher des partenaires, il faut d'abord voir si ces gens que vous allez former auront la possibilité de trouver de l'emploi.
Mm-hmm.
C'est ça. Alors, ça doit aller de pair avec la politique de développement.
Oui.
Quand je parle de la planification, c'est dans ce sens-là,
mm-hmm.
quand on veut planifier un secteur, on doit tenir compte du plan général de développement. On doit voir comment ces gens que nous allons former, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils auront la possibilité de s'intégrer dans la société, de trouver l'emploi, en trouvant un emploi. Justement, on doit tenir compte de plusieurs facteurs, paramètres, qui permettent de dire, voilà, par province, par territoire, voilà, nous allons former des gens dans tel ou tel domaine, mmh. suivant la vocation.
Mmh.
Là où il y a demande de l'agronome.
Des gens, voilà. Mais ça, c'est important.
On crée une école agronome, plutôt agricole, pour
résoudre les problèmes au niveau de la communauté.
Voilà.
Voilà. Ça, c'est important. Vous avez dit que cela doit marcher de pair avec la politique de développement. C'est important. Il faut une étude, une programmation. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Loro, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï Occidental. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Docteur Richard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tout le monde qui a eu à parler.
Vous avez suivi notre ami Arsène Bécupé qui
oui.
a insisté sur une éducation pédagogique populaire, une sensibilisation pour arriver vraiment à intérioriser ces besoins de la formation professionnelle technique. Mais notre invité a dit tout cela doit marcher de pair avec la politique de développement. Il faut une programmation pour qu'on ne puisse pas avoir des gens qui sont formés dans les écoles techniques professionnelles pour rien et qui ne peuvent pas résoudre le problème au niveau de la communauté. Alors, efficacement, qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui, ils ont raison, je les salue, je les félicite aussi. Je voudrais dire que, en gros, il faut faire une formation professionnelle par objectif.
Mm-hmm.
Pourquoi? C'est parce que le fait d'écarteler les ministères et créer d'autres, tels que le ministère de l'éducation professionnelle et le ministère de l'éducation générale, c'est créer des polémiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, selon moi, il fallait laisser le ministre de l'éducation lui flanquer trois adjoints. Le premier est chargé de l'enseignement professionnel, le deuxième de l'enseignement général. Et troisième ministre et vice-ministre chargé de la transition technologique et professionnelle. Pourquoi je dis ça? Moi-même qui vous parle, je suis agriculteur bio, éleveur bio. J'ai fait la transformation et conservation de produits agroalimentaires de rang d'entrepreneur. Et je suis apiculteur. J'ai fait ça pour regarder dans ces sciences et trouver les réponses à apporter dans ma profession médicale. Je vais vous donner un témoignage. Je me retrouve quelque part dans une formation médicale. Un enfant avait de la fièvre. On lui a donné sont comprimés avec un produit vendu sur le marché qui n'est pas un jus, c'est un colorant dans de l'eau sucrée. L'enfant a pris, 15 minutes après, il s'est mis à vomir. C'est ce jour-là que je me suis dit, ça c'est pas un jus. On a créé trois produits incontrôlables. C'est-à-dire le comprimé, on connaît la formule, et puis le produit là, qui est vendu sur le marché, on ne connaît pas la formule, parce que c'est un colorant dans de l'eau sucrée, et on a créé une molécule, une troisième, qui n'a pas de nom. Juste là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans ces sciences, voir comment protéger le consommateur malade. C'est ce que j'ai eu à faire. J'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis professionnalisé. C'est une transition qui a coûté cher, même sur le plan insulte. Mais j'ai aujourd'hui un discours équilibré. J'ai aujourd'hui des propositions de soins de santé à travers ma transition scientifique, à tel point que je suis en droit de dire que j'ai complété ma médecine qui était vide. Voilà le type de professionnalisation dont nous avons besoin. Par exemple, dans la pâtisserie que j'ai eu à faire, j'ai découvert que les maladies cardiovasculaires sont aussi produites par les gâteaux. Parce qu'on y met le lait entier, le lait, on y met des huiles, on y met aussi beaucoup de graisse animale. Qu'est-ce que ça crée? Voilà. Moi, si je veux faire des gâteaux demain, ça serait des gâteaux bio. J'ai déjà la formule. N'eût été ce que nous avons déploré ici, le vol de notre argent que nous avons placé chez Dutch, parce que je devais avoir 40 hectares de terre et commencer à produire beaucoup de choses, j'aurais déjà présenté mes produits. Donc, il ne faut pas qu'on fasse des écoles techniques pour faire, en oubliant par exemple l'artisanat. Où sont partis les Kitikwala? Où sont partis les Lubengis et les Luba? Où sont partis les Kintonga? Où sont partis les Ngolo, Ngola, pour les jeux traditionnels là? Où sont partis ces choses? Qui a fait des bacs de ruissage des Kimpuka pour moderniser? On nous ramène dans la modernisation, je ne sais pas comment on appelle ça, révolution de la modernité. Révolution de la modernité, c'est la technologie des autres, en écrasant notre artisanat. Comment on va évoluer avec deux langages contradictoires? C'est ça le problème.
Ah, ça dit qu'il faut y aller, comme vous l'avez dit, docteur Richard, il faut organiser la formation professionnelle et technique par objectif, et l'invité le disait tout à l'heure, pour avoir des gens qui fabriquent et qui travaillent pour la consommation au niveau de la société, parce que ça ne sert à rien s'ils vont être formés et qu'ils ne sont pas en mesure d'être employés, ni de travailler pour répondre aux besoins de la communauté. Merci beaucoup,
docteur
Richard.
À ce niveau, il faut aussi former les techniciens qui ont eu la formation dans la création des entreprises. Il ne faut pas qu'on crée pour eux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on crée, on conforme des concepteurs. Des concepteurs à tous les niveaux. Même au niveau primaire, il faut déjà qu'on amène les enfants à la conception.
Qu'ils soient en train
de concevoir des pièges à la corde de Chimbriqué. Mais le petit qui est en train de souder ses histoires, il a fait 4 ans, il ne s'en sort pas. Ce n'est pas un concepteur. Mais il connaît qu'on attrape les Chimbriqués en leur donnant des coups de bâton, je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il faut aller dormir dans la forêt pour obtenir ça? C'est ça le problème, c'est pas un concepteur.
Il faut former aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Dr. Richard. Mais vous avez souhaité, vous, qu'on aurait dû garder le ministère tel qu'il était, EPSP, mais on pouvait éclater un vice-ministre chargé de l'enseignement technique et professionnel, un autre chargé de l'enseignement général et un autre bureau qui devait s'occuper de la transition technologique. C'est ça ce que vous avez souhaité. Et comme ça, toute la politique pouvait être coordonnée par objectif pour arriver vraiment à former les gens. Merci beaucoup. Laurent, vous êtes à Kananga, au Kassai occidental. Bonjour.
Oui, merci monsieur le journaliste. Je suis très content d'adhérer à cette volonté du gouvernement, car c'est vraiment de désenclaver les secteurs scientifiques afin de réduire les taux élevés de chômage dans la population.
Oui.
Je me fais quand même une rétrospection dans la politique nationale de la jeunesse. L'État avait pris l'engagement de redresser le secteur de l'éducation sur tous les plans. Et si vous vous retrouvez dans les objectifs de la politique nationale de la jeunesse, on a évoqué parmi les taux qui faisaient que le chômage vraiment plus beaucoup est vrai dans la jeunesse, il y a eu vraiment l'absence d'une politique de planification de l'éducation, explique clairement par l'insuffisance des infrastructures scolaires. Et puis juste pour un peu enrichir ma pensée, l'État avait pris cet engagement depuis longtemps, depuis 2011 si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, je vois vraiment cette volonté-là se traduire vraiment dans une volonté qui se traduit vraiment dans un... Si ce qui était rêve devient vraiment une réalité aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, je suis en train d'avoir pour cela toutes les pensées que l'État a normalement prises.
Mm-hmm.
Pour moi, aussi, par exemple, ici au niveau du Kassai occidental, si vous recourez certaines institutions, par exemple, qui sont déjà lancées, qui sont quand même des revoir comment ils doivent effectuer. Puisqu'il y a certaines écoles sur place ici qu'on a échangées, il y a par exemple l'école d'Akadja, par exemple, ici au niveau des Tilejil, par exemple, qui a été transformée de la pédagogie vers une institution technique. Donc je vous demanderai, si vous voyez présentement ici, les gens ne veulent pas, vous verrez que l'école n'a pas une très bonne fonctionnalité, compte tenu quand même des difficultés des intrants, des matériels, par exemple. On transforme une institution de la pédagogie vers une institution technique. Et vous voyez là-bas, on n'a pas appuyé parfois sur des machines qui peuvent faire que les élèves qui sont au sein de l'école puissent vraiment se sentir à l'aise lorsqu'il s'agit vraiment de faire, de mener une pratique.
Mm-hmm.
Donc imaginez celui qui m'a précédé, il dit que non, lorsqu'un enfant étudie et évolue dans une institution technique, lorsqu'on lui présente une brique, il faut qu'il puisse, on lui dit il y a une brique, il faut qu'il voit normalement, qu'il puisse palper des doigts,
oui.
Ça c'est la brique.
Mm-hmm.
Et présentement ici, vous voyez qu'on dit une brique, il n'y a pas des ateliers, il n'y a pas des centres de formation, que l'enfant peut aller normalement dans ces centres-là.
Pour se rendre compte, lier la théorie à la pratique. Merci beaucoup, Loro, c'est important ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que vous avez dit c'est important, Loro? Là, vous avez donné l'exemple de l'Institut Chilegelou à Kananga, qui a été depuis plusieurs années un institut pédagogique transformé en une école technique aujourd'hui, mais là, il n'y a pas de matériel. Les enfants qui sont écrits et inscrits ont des difficultés aujourd'hui à se rendre compte, à lier la théorie à la pratique. Il faut que cette volonté se concrétise par des moyens sur terrain. On va écouter les derniers auditeurs de cette émission. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. En une minute, Ismaël, quel est votre point de vue?
Mon point de vue est simple. Nous avons pu remarquer que depuis la défaillance de la plupart des sociétés minières, à la province du Katanga, il y a seulement une prise de difficulté. À tout celui qui fait une école technique, il va y partir, par exemple, c'est comme s'il va de la pédagogie. Pour ça, cette formation devrait être spécifique et renforcée. Dans les suffisances qu'il n'y a pas plus au sujet de l'offre aujourd'hui, c'est ça plus au sujet des difficultés. Allez dans les domaines techniques et médicales. Vous trouverez une personne conduite une famille. Il ne sait pas. Mais si on a aussi des équipements complets où on montre à une personne que ça telle ou telle chose, ça peut être bien. Remarquez un peu ce terme conduit la modernisation. Et comment on peut aller dans les modernisations si vous allez dans une école technique commerciale où la machine de 1970 date jusqu'à présent? Ça ne peut pas avoir aussi des succès, plutôt si on va aussi moderniser, soit à tout équipe technique,
mm-hmm.
Et ça peut aller.
Juste voilà.
Là, je vois qu'un soldat tellement, que dans des écoles techniques, on peut aussi avoir aussi une performance. Je vois que le bilan est négatif, vraiment. Il faut
merci, merci beaucoup, Ismaël. La volonté de la modernisation doit marcher aussi avec cette modernisation au niveau des écoles techniques. Beaucoup de messages qu'on ne pourra pas exploiter. Angèle Télémissagui de Siro dit ceci. Je pense qu'il est encore grand temps pour l'État congolais de faire la rétrospective sur certains secteurs susceptibles qui peuvent concourir au développement du pays, car la plupart des Congolais préfèrent travailler dans des bureaux climatisés que de faire des travaux manuels. Or, les métiers contribuent au développement du pays, d'autant plus que beaucoup n'ont pas eu la chance d'étudier, moins encore de poursuivre des études universitaires. J'estime qu'ils peuvent toutefois mieux organiser leur avenir s'ils pratiquent certains métiers. Anderson de Goma nous a écrit, Kassapar Mpuka du Katanga, Clovis de Mbujimaï, Saint-Florien de Kananga, William Ilunga de Olomami, Rachid Ngouzi de Bukavu, Junior Balimba de Kisangani, Michael de Bounia, Luc Nkounou de Kalemi et Souvenir Kamabou de Goma. Vous avez été nombreux à nous écrire, on ne saura pas exploiter tout le message. On revient à vous, Urbain Marie Mompi, parce qu'il faut conclure cette émission dans une minute et demie. On a suivi les uns et les autres, la volonté est là, les soucis est là. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de notre échange en une minute pour terminer cet échange? André Marie Mompi, vous êtes avec nous? Voilà, désolé qu'on a perdu Urbain et Marie, mon fils, qui étaient avec nous dans cette émission, parole aux auditeurs consacrée bien sûr à la promotion de la formation technique et professionnelle. Vous avez été très nombreux à réagir suite bien sûr à l'initiative du gouvernement depuis 2007 pour arriver vraiment à promouvoir ces différentes filières organisées et que cela puisse accompagner les développements sur terrain. Merci à vous tous qui avez été avec nous dans cette émission depuis le début jusqu'en ce moment.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain vendredi à 11h30 heure de Kinshasa pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Gilles Lungembo était à la coordination. Sylvain Matondou à la mise en onde, Julie Fezabongonda à la réalisation. Pierrot et la Meiji vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver paroles aux auditeurs sur www.radiocapi.net mais aussi en rediffusion à 20h30 heure de Kinshasa. Au revoir.